Marie-Louise von France disait que l'inconscient est intéressé à ce que le rêve soit compris, qu'il veut nous, alors là c'est vous qui dites ça, nous enseigner à vivre. Quelques esquisses peut-être de ce mode d'emploi autre que le métro-boulot-dodo.
Personne ne sait comment vivre. D'ailleurs, dans un rêve que j'ai commenté récemment, c'est justement le dernier article de blog que je viens de poster hier, je présente un rêve dans lequel le rêveur arrive dans un parking et tous les gens cherchent leur voiture, ils ont perdu leur voiture. Et lui, qui a longtemps étudié les rêves, justement, qui se passionne pour cette voie-là, et qui se croit perdu, mais en fait, il sait parfaitement où retrouver sa voiture. Et d'ailleurs, la police est là et lui donne un code pour pouvoir... Et quand on a discuté de ce rêve ensemble, on est convenu très vite que c'était tout à fait symbolique d'une situation dans laquelle, en fait, la voiture symbolise très volontiers le fait de conduire sa vie. Et donc, ce que dit le rêve, c'est que la plupart des gens ne savent plus où est la juste façon de conduire leur vie. Et que lui, qui se croit perdu, mais qui marche sur ce chemin des rêves, en fait, il le sait très bien où elle est, sa voiture. Et ça va avec le fait que, justement, il a cette écoute intérieure. Voilà, premier niveau de réponse, comme quoi les rêves peuvent parler de cette situation exactement. Ensuite, quand Marie-Louise von France dit ça, elle ajoute « Encore heureux que l'inconscient veuille que je comprenne les rêves, sinon je serais complètement perdu. » Et ça, c'est très intéressant, parce que là aussi, il y a une humilité. Elle prétend pas savoir... comment interpréter les rêves tout le temps? La compréhension qu'on a des rêves vient avec une coopération avec l'inconscient. C'est-à-dire qu'on peut partir du fait que quand il y a un rêve, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à devenir conscient en nous, qu'il y a une poussée à l'intérieur pour que quelque chose nous parvienne à la conscience. Et que si on a assez d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne balaye pas le rêve sous le tapis en disant « ce n'est rien que » et « je ne veux pas le savoir », alors, tôt ou tard, le sens de ce rêve va nous parvenir grâce au fait que l'inconscient cherche à ce que ça devienne conscient. Et puis, on observe quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que quand quelqu'un commence à s'intéresser à ses rêves sont généralement relativement clairs. C'est relativement facile de comprendre. Mais plus on travaille et plus les rêves deviennent cryptiques. Comme si elle nous disait, t'es assez grand pour répondre à tes questions, je vais pas répondre à tes questions. Mais en effet, c'est ce que dit von France, elle nous enseigne à vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous enseigne à regarder qu'est-ce qu'il y a de précieux vraiment dans l'existence. Est-ce que ce qui est précieux, par exemple, c'est vraiment de gagner de l'argent? Je suis pas sûr. Peut-être. Dans certaines circonstances, oui. Mais on peut penser, par exemple, que les gens qui ont institué le Shabbat dans la religion juive il y a quelques millénaires, c'est-à-dire un jour où on ne travaille pas et où on prend simplement le goût de se consacrer à l'éternel, à l'essentiel, mais c'est-à-dire aussi à la poésie, au chant, à la musique, à la lecture des textes sacrés, à la promenade en nature. Ces gens-là pointaient une direction pour dire « n'oubliez pas cet élément essentiel de la vie » qui consiste tout simplement à apprécier ce qui est là. Et enseigner à vivre, c'est très souvent ça. C'est très souvent, les rêves vont tout simplement pointer sur qu'est-ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux dans une relation? Combien c'est beau de regarder un enfant grandir? Combien c'est précieux de simplement de pouvoir respirer? Même si on n'a pas d'argent, même si on stresse pour payer ses factures. Et donc de revenir à l'essentiel de la vie, ce qui nous est donné gratuitement. Combien c'est précieux aussi de pouvoir avoir un échange avec quelqu'un sans attendre un gain. Mais c'est précieux de pouvoir donner, rendre service, tout ce genre de choses.
Ce qui va à l'encontre finalement du monde vers lequel nous allons. Enfin,
ça va à l'encontre du monde artificiel que nous créons. Mais les animaux, les plantes, les enfants, les très vieilles personnes et un certain nombre d'êtres humains qui marchent un petit peu sur le bas-côté de la route n'en perdent pas contact avec cet essentiel de la vie. Moi, ce que m'a dit un jour une voix intérieure par rapport à ça, c'est m'a dit c'est juste une petite couche de crasse. Hein. C'est juste une petite couche de crasse que le mental dépose sur la réalité. Mais finalement, c'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. On peut très facilement revenir au contact de la vraie vie, de l'essentiel de la vie. Il n'y a rien qui nous emprisonne. Hein.
Espérons-le pour l'humanité. On va revenir dans votre approche et pratique. Ouais. Les émotions du rêve sont, vous dites, les meilleurs guides. Et traduire une émotion, c'est trouver l'image qui se cache derrière. Alors l'image, dites-vous, se transforme et devient métaphore. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? C'est vraiment votre méthode d'interprétation du rêve.
Alors, il y a deux questions dans la question. La première, c'est sur la méthode elle-même. En effet, bon, tout le travail symbolique d'interprétation, j'en ai pas du tout la valeur. Il consiste à chercher le sens d'un symbole. Il y a quelques bons dictionnaires de symboles, même si je recommande pas les dictionnaires, mais... une certaine méthode traditionnelle par les associations mentales, etc. Mais je dis qu'en fait, le rêve, c'est d'abord de l'émotion qui prend forme d'image pour parvenir à notre conscience. Et qu'en fait, la question la plus intéressante à se poser avec un rêve, c'est qu'est-ce que je sens dans le rêve ? Et où est-ce que dans la vie, je sens quelque chose de similaire ? Si, par exemple, dans le rêve, j'ai une altercation avec quelqu'un, puis je me sens humilié. La vraie question, c'est où c'est que je ressens une humiliation comme ça dans ma vie ? Et quand est-ce que je l'ai ressentie ? Et si je passe par le senti, je vais peut-être connecter avec quelque chose qui n'a rien à voir, qui est peut-être une expérience de vie il y a 30 ans, quand j'étais jeune et que j'ai été appelé au tableau et que je n'ai pas su quoi répondre et que j'ai vécu ça comme une humiliation. Et tout d'un coup, me rendre compte que avant-hier, là, dans une discussion avec mon patron, il m'a dit quelque chose. Je n'ai même pas pris le temps d'y penser, mais ça m'a atteint de la même façon. Et en fait, tout d'un coup, l'émotion va faire le lien entre le rêve, la mémoire et la situation présente auquel répond le rêve. Et c'est le fil conducteur qui permet le plus directement de connecter avec les éléments du rêve. Bon, ça c'est un aspect pratique du travail, puis qui est illustré par, je suis pas le seul à le dire, la Gestalt travaille beaucoup, par exemple, avec l'émotion du rêve, etc. Quant à l'idée qu'il y a une image dans l'émotion, cette idée, elle vient d'une petite phrase de Jung, dans laquelle il donne la clé du travail, justement, en parlant de sa propre expérience intérieure, dans ma vie, dans le chapitre sur la confrontation avec l'inconscient. Il dit à un moment, à chaque fois que je prenais le temps de rester avec mes émotions et d'aller chercher l'image qui était dans l'émotion, alors la paix intérieure revenait. Et c'est une phrase qui m'a frappé, sur laquelle j'ai beaucoup tourné, cheminé, pas seulement avec la psychanalyse jungienne, mais aussi avec la méditation et tout ce genre de choses, pour finir par réaliser qu'il avait vraiment donné une indication extrêmement précieuse, là. En fait, dans le sens commun, on est porté à penser que c'est le contraire. Il y a une émotion dans une image. Hein, on serait porté à penser qu'une image va nous susciter une émotion. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que notre psyché est faite d'images. On a des images du réel. Et une des façons dont ces images se manifestent à nous, c'est qu'elles prennent la forme d'émotions. Mais elles restent inconscientes. Si, par exemple, ma copine ne m'appelle pas pendant une journée, il y a une émotion qui commence à se mettre en place, éventuellement, une nervosité, une peur, etc. Si je prends le temps de m'asseoir, de méditer avec ça, je médite. Qu'est-ce qui est là ? Au lieu de tout d'un coup lui courir après, lui balancer, tu me fais flipper, tu me donnes pas de nouvelles, etc. Et si je reste avec ma peur, je vais à un moment trouver une image. Et éventuellement, cette image, ça va être un sentiment d'abandon, ça va être un enfant abandonné. Un enfant abandonné ? Ah bon ? C'est que dans ma relation avec ma copine, il y a un enfant qui se sent abandonné par un parent. Ah mais là, on vient de changer complètement de niveau. Et tout d'un coup, ça m'apprend quelque chose sur mon émotion, sur mon sentiment, sur mon vécu. Et ça m'en dévoile les profondeurs. Quoi ? Elle peut avoir autre chose à faire pendant un après-midi que de me téléphoner quand même. Je ne suis pas obligé de me vivre en manque affectif. Oui, mais dans ce manque affectif, il y a un enfant, il y a une métaphore. Et tout d'un coup, ça me donne une autre image, cette image de l'abandon, de mon émotion.
On peut faire voir la source de l'émotion.
Exactement. C'est voir la source de l'émotion, et cette source de l'émotion, elle est dans une métaphore. Elle s'exprime dans une métaphore, elle s'exprime dans une image, elle ne s'exprime pas de façon intellectuelle. C'est comme ça, par exemple, que quand on travaille en psychologie jungienne avec des gens qui vivent des émotions fortes, on va leur demander de mettre l'émotion dans une image aussi. Quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis triste ». Vous êtes triste comment ? Est-ce que vous êtes triste comme un enfant dont le jouet a été cassé ? Est-ce que vous êtes triste comme une personne qui accompagne le cercueil de son bien-aimé au cimetière ? Est-ce que vous êtes triste comme quelqu'un qui a tout perdu ? Et le simple fait d'être capable de connecter la tristesse dans une image va donner une carte qui très généralement indique comment ça peut se transformer, comment ça peut changer.
Alors, pour poursuivre, vous dites que l'inconscient a son propre rythme, tout comme les saisons. Est-ce à dire que le temps est l'allié du changement ?
Oui, oui. Le temps est l'allié du changement, complètement. Il n'y a pas de changement qui se fasse en un jour, en un clin d'œil. Il y a des fois des changements qui se font très très vite, mais ils ont été préparés très longtemps. Hein, c'est le rapport ancestral entre la voie abrupte et la voie progressive, par exemple, dans le chemin spirituel. La grande discussion, savoir si l'illumination est instantanée ou si ça prend des années et des années de pratique. Et la réponse, quand même, c'est qu'elle va pouvoir être instantanée à partir du moment où il y a des années de pratique. Mais sinon, c'est vraiment très très rare qu'elle surgisse comme ça d'un coup d'un seul. Mais l'inconscient a son propre rythme. Au même titre que les saisons, au même titre que la nature. L'inconscient, c'est la nature en nous. Donc, il est vraiment capable de prendre son temps. Et il y a des hivers de l'inconscient, il y a des printemps de l'inconscient. On l'observe dans les rêves. On peut voir dans les rêves comment, par exemple, une situation s'éternise comme un hiver. Puis tout d'un coup, il y a des bourgeons. Et puis tout d'un coup, ça se met à sortir. Puis d'un coup, c'est l'été. Et puis, ça ne dure pas. C'est-à-dire que finalement, plus tard, oui, il y a eu une grande joie, il y a eu une grande... Et puis, ben non, ça devient l'automne, et on retourne vers l'hiver, et il y a un nouveau deuil, et il y a une nouvelle situation qui se présente. Et tout ça, c'est au rythme de l'inconscient, et c'est pas choisi consciemment. C'est pas nous qui décidons.
Alors, vous dites que votre travail consiste à faire éclore la fleur de conscience, transformer la souffrance en conscience. Alors, vous allez peut-être nous parler de ça, mais on exergue une phrase de Jung qui disait « Tout ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme destin. »
Oui. Alors, la fleur de conscience, d'abord. Ça repart de l'idée que la fleur de conscience, de ce que, dans le rêve, il y a quelque chose qui cherche à devenir conscient. Et donc, propose une métaphore. Imaginons quelque chose qui est comme une graine, qui est sous terre. Ça, c'est inconscient. On ne la voit pas. Et puis, un jour, ça trouve assez d'énergie pour faire apparaître une jeune pousse. Cette jeune pousse, c'est le rêve. Ça y est, ça vient de percer. Ça vient de sortir. Mais ce n'est pas encore une fleur complètement développée. Ce n'est pas encore pleinement conscient. Pour le rendre conscient, il va falloir faire un travail de jardinier. On ne peut pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite, ça ne marche pas, sinon on va le déraciner. Mais un travail de jardinier, on peut reprendre les métaphores qui viennent du chamanisme, ça nous prend les quatre éléments. Il faut que ce soit bien enraciné dans le corps, il faut que ce soit bien enraciné dans notre réalité, la terre. Il faut que ce soit arrosé avec l'eau des émotions. Il faut que ça reçoive la chaleur du soleil, de notre attention. Il faut que ça reçoive aussi qu'il y ait l'air de nos idées. Et ces quatre éléments combinés avec la patience du jardinier pour laisser pousser la plante, ça permet à la fleur de conscience de s'épanouir et d'élargir notre conscience. Et en effet, ma démarche personnelle, fondamentalement, est enracinée en partie dans le bouddhisme, dans les quatre nobles vérités du Bouddha. C'est-à-dire que je suis d'accord avec la proposition, la première noble vérité du Bouddha, c'est que la souffrance est inévitable. On la rencontre partout dans le monde, toujours. Tôt ou tard, on aime, on s'attache à quelqu'un, un jour, cette personne partira, etc. Ça sera cause de souffrance. Tout ce qui est bon a un revers qui causera la souffrance. Et cette souffrance, assez généralement, on a le choix, quand on a vécu de la souffrance, entre la nier, la refouler. Et dans ce cas-là, très souvent, elle revient en violence. C'est-à-dire qu'on la nie et elle ressort. Et c'est un peu comme si on transmettait la souffrance à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'une souffrance qu'on n'a pas été capable de gérer, d'intégrer, par exemple un enfant qui a été battu, et va éventuellement, devenant adulte et ayant nié cette souffrance qu'il a vécue enfant, il va à son tour battre son propre enfant, ou il va être agressif, il va se battre avec des gens dans la rue. Et en fait, il va transmettre cette souffrance jusqu'à ce que quelqu'un soit capable d'arrêter la chaîne de transmission. Et c'est là où je rejoins le bouddhisme encore par là, parce qu'il y a les rêves, mais il y a aussi la méditation. Pour moi, c'est indissolublement lié. Un jour, il faut qu'on s'assoie et qu'au lieu de réagir à la souffrance qu'on a ressentie et continuer à la projeter à l'extérieur, bah, qu'on la prenne en charge et qu'on dise « Ok, c'est ma souffrance, c'est ce qui m'est échu comme souffrance à travailler. » Et à faire quoi ? Bah, à transformer en conscience. Donc si on reprend par exemple le cas d'une personne qui a été battue, d'abord dans un premier temps, le retour du refoulé va l'amener à prendre conscience qu'en effet, dans son enfance, il a reçu des coups. Et il va ressentir toute cette souffrance et toute cette violence. C'est difficile. Ça réclame un accompagnement thérapeutique. Ok, ça se fait pas comme ça. Ça revient volontiers par les rêves, justement. Hein, tout ce genre de choses. Mais si déjà la personne est assez courageuse pour rester avec ça en disant « Oui, c'est ma vie, c'est ça qui est arrivé. » Alors éventuellement, bien sûr, il va retourner sa violence intérieure contre la personne qui l'a battue. Il va la juger, il va dire « Cette personne n'aurait jamais dû me battre. » Mais s'il va jusqu'au bout du chemin, il y a un moment ou un autre où il réalisera que la personne qu'il battait souffrait. et que c'était sa seule façon d'exprimer sa souffrance. Et il y a un moment, la guérison réelle, la guérison finale arrivera, c'est qu'il réalisera que oui, il a subi de la souffrance, mais que la personne qui lui a donné cette souffrance à vivre elle-même souffrait, que c'est une chaîne sans fin, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est de couper la chaîne et de mettre un peu d'amour dans tout ça. Okay ? Alors, ça nous ramène à Jung. C'est qu'en effet, tout ce qu'on ne rend pas conscience à l'intérieur, ben, il va nous revenir de toute façon dans la figure de l'extérieur. Par ailleurs, si on ne rend pas conscient de notre propre souffrance et notre violence, eh ben, l'extérieur va se charger de nous le rappeler et on va être là à se dire « Mais pourquoi moi ? Pourquoi je prends des coups dans la figure comme ça ?»